Le décor approprié. Nouvelle d'Ambrose Bierce, extraite de Contes noirs. Par une nuit de la Saint-Jean, le fils d'un fermier, qui habitait à 10 miles environ de Cincinnati, suivait un sentier muletier à travers une forêt sombre et touffue. Il était parti à la recherche de quelques vaches égarées et, à la nuit tombante, il se trouva loin de chez lui, dans un coin du pays qu'il ne connaissait guère. Mais c'était un garçon courageux et, sachant à peu près d'où il était venu, il s'enfonça dans la forêt sans hésiter, guidé par les étoiles. Arrivé au sentier muletier, il observa qu'il allait dans la bonne direction et le suivit. La nuit était claire, mais sous les arbres, il faisait extrêmement sombre. Le sens du toucher plutôt que celui de la vue permettait au gamin de rester dans le sentier. En fait, il aurait pu difficilement s'en écarter. De part et d'autre, les broussailles croissaient si épaisses qu'elles étaient presque impénétrables. Il avait parcouru peut-être plus d'un mile sous bois lorsqu'il fut surpris de voir luire une faible clarté à travers le feuillage à sa gauche. À cette vue, il sursauta et son cœur se mit à battre si fort qu'il en perçut les pulsations. « La vieille maison de Bride se trouve dans ces parages, » se dit-il. « Ceci doit être l'autre extrémité du sentier par où on y accède en venant de chez nous. Qu'est-ce qu'une lumière peut bien faire là? Je n'aime pas ça du tout. » Néanmoins, il poursuivit sa route. Un moment plus tard, il débouchait dans une petite clairière, presque entièrement recouverte de ronces, où l'on voyait les restes d'une palissade pourrie. À quelques mètres de la piste, au milieu de la clairière, se dressait la maison où brillait la lumière à travers une fenêtre sans vitre. Le verre et les croisillons qui le soutenaient avaient depuis longtemps cédé sous le choc des projectiles jetés par des gamins aventureux, désireux de prouver à la fois leur courage et leur hostilité à l'égard du surnaturel. Car la maison de Bride avait la mauvaise réputation d'être hantée. Peut-être n'en était-il rien, mais même le sceptique le plus endurci ne pouvait nier qu'elle fût déserte, ce qui, dans les campagnes, est à peu près synonyme de hanté. En regardant la faible et mystérieuse lumière qui brillait par la fenêtre brisée, l'enfant se rappela, non sans inquiétude, avoir participé de ses propres mains à cette œuvre de destruction. Naturellement, il éprouva un repentir d'autant plus violent qu'il était tardif et inefficace. Il s'attendait presque à un assaut de toutes les présences malignes, surnaturelles et immatérielles qu'il avait offensées en aidant à démolir leurs fenêtres et à troubler leur paix. Malgré tout, ce garçon opiniâtre, tremblant de tous ses membres, ne voulut pas battre en retraite. Le sang des broussards, vigoureux et riches en fer, coulait dans ses veines. Deux générations seulement le séparaient des hommes qui avaient soumis les Indiens. Il se mit en route pour passer devant la maison. Quand il parvint à sa hauteur, il jeta un coup d'œil à l'intérieur par l'encadrement vide de la fenêtre et vit un spectacle étrange et terrifiant. La silhouette d'un homme assis au milieu de la pièce, devant une table couverte de feuilles de papier éparses. Les coudes reposaient sur la table, les mains soutenaient la tête nue. À droite et à gauche, les doigts s'enfonçaient dans les cheveux. Le visage se détachait, blême, à la lueur d'une seule chandelle placée un peu de côté. La flamme éclairait ce côté du visage, l'autre restait plongé dans une ombre dense. L'homme attachait son regard sur l'encadrement vide de la fenêtre, un regard fixe où un observateur plus âgé et plus maître de soi aurait pu discerner une vague appréhension, mais qui parut à l'enfant totalement privé d'âme. Il crut que l'homme était mort. La situation était horrible mais fascinante. Le gamin suspendit sa fuite pour observer tous les détails de la scène. Il s'efforça d'apaiser les battements de son cœur en retenant son souffle jusqu'à ce qu'il fût à demi suffoqué. Tremblant de tout son corps, prêt de s'évanouir, il sentait qu'il était d'une pâleur mortelle. Malgré tout, il serra les dents et s'avança résolument vers la maison. Il n'avait aucune intention consciente, mais simplement le courage qu'inspire la terreur. Il passa son blême visage dans l'ouverture éclairée. À ce moment, un cri étrange, rauque, strident, déchira le silence nocturne. L'appel d'un chat huant. L'homme se dressa d'un bond, renversa la table, éteignant la chandelle. L'enfant prit ses jambes à son cou. La veille. Bonjour Colston. Tiens, ça tombe bien, vous m'avez souvent dit que je faisais l'éloge de vos œuvres littéraires par pure politesse, et vous me trouvez plongé, belle et bien absorbée, dans votre dernier conte publié dans Le Messager. Il a fallu le choc de votre main sur mon épaule pour me faire reprendre mes esprits. La preuve est plus forte que vous ne semblez le savoir, répondit l'homme auquel s'adressaient ces paroles. Vous apportez une telle ardeur à lire mon histoire que vous abandonnez de plein gré toute considération égoïste et renoncez à une partie du plaisir que vous pourriez en tirer. Je ne vous comprends pas, dit l'autre en pliant le journal qu'il tenait et en le mettant dans sa poche. D'ailleurs, vous autres écrivains, vous êtes de drôles de types. Voyons, expliquez-moi ce que j'ai fait ou ce que j'ai omis de faire en l'occurrence. Comment le plaisir que me donne ou pourrait me donner votre œuvre dépend-il de moi ? En plusieurs façons. Permettez-moi de vous demander quel plaisir vous auriez à dîner si vous dîniez dans ce tramway. Supposez que la photographie soit assez perfectionnée pour vous donner un opéra entier, chant, orchestre et tout. Croyez-vous que vous y prendriez grand plaisir si vous vous offriez le spectacle à votre bureau pendant les heures de travail ? Goûtez-vous vraiment une sérénade de Schubert quand vous l'entendez le matin sur un bac raclé par un violoneux italien intempestif ? Êtes-vous toujours à même d'admirer ? Gardez-vous toutes vos humeurs prêtes à être mises à contribution selon vos besoins ? Laissez-moi vous rappeler, monsieur, que l'histoire que vous m'avez fait l'honneur de commencer à lire pour oublier l'inconfort de ce véhicule est une histoire de fantôme. Et alors ? Alors voici, le lecteur n'a-t-il pas des droits correspondant à ses privilèges ? Vous avez payé ce journal 5 cents. Il vous appartient. Vous avez le droit de le lire où et quand vous voulez. L'intérêt de la plupart des nouvelles qu'il renferme n'est ni augmenté ni diminué par le temps, le lieu et l'humeur. Certains passages même doivent bel et bien être lus tout de suite, tant que ça pétille. Mais mon histoire est d'un genre différent. Elle ne contient pas les toutes dernières informations du pays des fantômes. On n'attend pas de vous que vous vous teniez au courant de ce qui se passe au royaume des spectres. La chose peut attendre jusqu'à ce que vous ayez le loisir de vous mettre dans un état d'esprit approprié aux sentiments de l'œuvre. Et je vous fais respectueusement remarquer que cela vous est impossible dans un tramway, même si vous en êtes l'unique voyageur. Cette solitude n'est pas la bonne. Un auteur a des droits que le lecteur est tenu de respecter. Donnez-moi un exemple bien déterminé. Il a droit à l'attention complète du lecteur. La lui refuser est immoral. Partagez votre attention entre lui et le fracas du tramway, le panorama mouvant de la foule sur les trottoirs et les édifices qu'elle longe, bref, une quelconque des mille distractions dont est faite notre milieu habituel, c'est le traiter avec une injustice flagrante. Par Dieu, c'est infâme ! Celui qui parlait ainsi venait de se lever et assurait son équilibre en s'accrochant à une des courroies qui pendait du plafond du tram. L'autre le regarda avec un étonnement subit, se demandant comment un grief aussi insignifiant pouvait paraître justifier un langage aussi énergique. Il vit que le visage de son ami était d'une pâleur singulière et que ses yeux luisaient comme des braises. « Vous comprenez ce que je veux dire ?» continua l'écrivain avec volubilité. « Vous comprenez ce que je veux dire, Marsh ? Ma prose dans Le Messager de ce matin porte clairement comme sous-titre « Histoire de revenant ». C'est donner ample information au public. Tout lecteur honorable comprendra que ce sous-titre prescrit implicitement les conditions dans lesquelles l'œuvre doit être lue. Celui qu'on venait d'appeler Marche fronça légèrement le sourcil, puis demanda en souriant « Quelles conditions ? Vous le savez, je ne suis qu'un homme d'affaires dont on ne peut supposer qu'il comprenne ces choses-là. Comment, quand et où dois-je lire votre histoire de revenant ? » Dans la solitude, la nuit, à la lueur d'une chandelle. Il y a certaines émotions qu'un écrivain peut provoquer assez facilement, ainsi la compassion et la gaieté. Je peux vous faire pleurer ou rire presque dans n'importe quelle circonstance. Mais pour que mon histoire de revenant produise tout son effet, il faut que vous éprouviez de la frayeur. Ou à tout le moins un sentiment très fort du surnaturel. Et c'est une toute autre affaire. Si tant est que vous me lisiez, j'ai le droit d'espérer que vous me donnerez une occasion favorable, que vous vous rendrez accessible à l'émotion que j'essaie d'inspirer. Le tram venait de s'arrêter au terminus. C'était son premier trajet de la journée, et la conversation des deux voyageurs matinaux n'avait pas été interrompue. Les rues étaient encore silencieuses et désertes. Le soleil levant effleurait à peine le toit des maisons. Pendant qu'ils descendaient du tram et s'éloignaient ensemble, Marche regardait attentivement son compagnon, qui avait la réputation, comme la plupart des écrivains, d'un talent peu commun, de se livrer à différents vices destructeurs. Telle est la revanche des esprits bornés sur les esprits brillants dont la supériorité les irrite. Colston passait pour un homme de génie. Certains honnêtes gens considèrent le génie comme une manière d'excès. On savait que Colston ne buvait pas, mais beaucoup prétendaient qu'il s'adonnait à l'opium. Ce matin-là, Marsh observa dans son aspect certains détails de nature à confirmer ce bruit. Des yeux un peu hagards, une pâleur inhabituelle, un débit rapide et indistinct. Malgré tout, il n'eut pas assez d'abnégation pour renoncer à un sujet de conversation qui l'intéressait, encore qu'il échauffât son ami. « Voulez-vous prétendre, commença-t-il, que si je me donne la peine de me conformer à vos instructions, de me mettre dans les conditions exigées par vous, solitude, nuit, chandelle de suif, vous pouvez, grâce à votre œuvre la plus effrayante, me donner le sentiment désagréable du surnaturel, pour employer vos propres termes. Pouvez-vous accélérer mon pouls, me faire sursauter à un bruit soudain, me faire ressentir un froid nerveux le long de l'épine dorsale, me faire dresser les cheveux sur la tête ? » Colston se retourna brusquement et le regarda bien dans les yeux, toujours chemin faisant. « Vous n'oseriez pas, vous n'en auriez pas le courage, » dit-il en soulignant ses paroles d'un geste de mépris. « Vous êtes assez brave pour me lire dans un tramway, mais dans une maison abandonnée et seule, dans une forêt, la nuit. Allons donc, j'ai dans la poche un manuscrit qui vous tuerait. » Marsh était en colère. Il se savait courageux et ses paroles le piquèrent au vif. « Si vous connaissez un tel endroit, répliqua-t-il, vous pouvez m'y conduire cette nuit même et me laisser votre histoire et une chandelle. Venez me chercher quand j'aurai eu le temps de la lire. Je vous en raconterai toute l'intrigue et vous ferai vider les lieux d'un coup de pied. » Voilà comment il advint que le fils du fermier, regardant à l'intérieur de la maison de Bride par une fenêtre sans vitre, aperçut un homme assis à la lueur d'une chandelle. Le lendemain, tard dans l'après-midi, trois hommes et un jeune garçon s'approchaient de la maison de Bride. Il venait de la direction dans laquelle le gamin avait fui la nuit précédente. Il paraissait très gai, parlait à voix haute et riait. Avec une ironie joviale, ils adressaient à leur jeune guide ses remarques facétieuses sur son aventure, à laquelle ils ne croyaient évidemment pas. L'enfant accueillait leur raillerie avec le plus grand sérieux, sans souffler mot. Il avait le sens de l'agencement normal des choses. Il savait que celui qui déclare avoir vu un mort se lever de son siège puis souffler une chandelle n'est pas un témoin digne de foi. Arrivés à la maison, les investigateurs trouvèrent la porte verrouillée du dedans et ils l'enfoncèrent sans autre cérémonie. La porte donnait sur un couloir d'où l'on sortait par deux autres portes à droite et à gauche. Ces portes, également fermées, furent enfoncées, elles aussi. D'abord, ils pénétrèrent au hasard dans la pièce de gauche. Elle était vide. Dans la pièce de droite, celle qui avait la fenêtre de façade sans vitre, se trouvait le cadavre d'un homme. Il gisait, en partie sur le flanc, l'avant-bras sous la tête, la joue contre le plancher. Les yeux étaient grands ouverts. Leur regard fixe n'avait rien d'agréable quand on le rencontrait. Une table renversée, une chandelle en partie consumée, une chaise, quelques feuilles de papier couvertes d'écriture, c'est tout ce que la pièce renfermait d'autre. Les hommes regardèrent le cadavre et, l'un après l'autre, lui touchèrent le visage. Le jeune garçon se tenait debout, près de la tête, comme si le corps eût été sa propriété. C'était le plus glorieux moment de sa vie. L'un de ses compagnons lui dit « T'es un fier gars !» remarque qui fit hocher la tête aux deux autres en signe d'approbation. Le scepticisme faisait des excuses à la vérité. Puis, un des hommes ramassa sur le plancher les feuilles manuscrites et se dirigea vers la fenêtre, car déjà les ombres du soir enténébraient la forêt. On entendit au loin l'engoulement crier et un scarabée monstrueux fila près de la fenêtre avec un vrombissement d'ailes qui s'éteignit dans le lointain. Le manuscrit. Avant d'accomplir l'acte que, à tort ou à raison, j'ai décidé d'accomplir, et avant de comparaître en jugement devant mon Créateur, je soussignais James Colston, estime qu'il est de mon devoir de journaliste de faire la déclaration suivante. Je crois m'être fait un nom assez bien connu du public comme auteur d'histoires dramatiques, mais l'imagination la plus sombre n'a jamais rien conçu d'aussi tragique que ma vie et mon histoire à moi. Non pas en incident, car mon existence a été dépourvue d'actions et d'aventures, mais j'ai connu moralement de ces expériences effroyables qui entraînent la mort et la damnation d'une âme. Je ne vais pas les raconter ici. Quelques-unes d'entre elles sont écrites et prêtes à être publiées ailleurs. Ces lignes ont pour but d'expliquer à tous ceux que cela peut intéresser que je meurs volontairement de mes propres mains. Je mourrai à minuit le 15 juillet, anniversaire lourd de sens pour moi car c'est ce même jour, à cette heure précise, que Charles Bride, mon ami dans le temps et dans l'éternité, a tenu son serment envers moi en accomplissant ce même acte que sa fidélité à notre promesse mutuelle exige de moi aujourd'hui. Il s'est tué dans sa petite maison, dans les bois de Copeton. On a rendu le verdict habituel de folie temporaire. Si j'avais déposé au cours de cette enquête, si j'avais dit tout ce que je sais, c'est moi qu'on aurait traité de fou. Il me reste encore une semaine à vivre pour prendre mes dernières dispositions ici-bas et me préparer au grand changement. Cela me suffit, car j'ai peu de dispositions à prendre. Et voici maintenant 4 ans que la mort est devenue pour moi une impérieuse obligation. Je porterai sur moi ce manuscrit. Je prie celui qui le trouvera de le remettre entre les mains du coroner. James R. Colston. Postscriptum. Willard Marsh, en ce jour fatal du 15 juillet, je vous remets ce manuscrit que vous devez lire selon nos conventions à l'endroit que je vous indique. Je renonce à mon intention de le garder sur moi pour expliquer comment je suis mort, ce qui n'est guère important. Il servira à expliquer votre mort à vous. Je me propose de vous rendre visite pendant la nuit pour m'assurer que vous l'avez lu. Vous me connaissez suffisamment pour attendre ma venue, mais mon ami, je viendrai après minuit. Dieu ait pitié de notre âme. J. R. Colston. on avait ramassé et allumé la chandelle pendant que l'homme qui s'était emparé du manuscrit poursuivait sa lecture. Quand il eut terminé, il plaça tranquillement les feuillets contre la flamme et, malgré les protestations des autres, les y maintint jusqu'à ce qu'ils fussent réduits en cendres. Celui qui agit ainsi et subit placidement une sévère réprimande du coroner était le gendre de feu Charles Bride. Au cours de l'enquête, rien ne put provoquer un compte-rendu intelligible de ce que renfermait le manuscrit. Extrait du temps. Hier, la commission d'inspection des asiles d'aliénés a fait procéder à l'internement de M. James Colston, auteur de réputation locale qui écrivait dans Le Messager. On se rappellera que, le 15 courant au soir, l'arrestation de M. Colston fut provoquée par un de ses colocataires de Ben House, qui l'avait vu agir de façon suspecte. Entre autres choses, il se dénudait la gorge et affûtait un rasoir dont il essayait le fil en se coupant bel et bien la peau du bras. Une fois remis entre les mains de la police, le malheureux opposa une résistance désespérée. Depuis lors, il s'est montré si violent qu'il a été nécessaire de lui passer la camisole de force. La plupart des autres rédacteurs de notre estimé confrère sont toujours en liberté.